Eh bien, écoutez, chers amis, je vous salue toutes et tous. Je vous dis le plaisir et l'honneur d'être parmi vous pour parler de la pensée. Mon propos sera simple. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre la méditation que vous pratiquez et la méditation des philosophes et leurs pensées. Je sais qu'en disant cela, je vais peut-être surprendre quelques-uns parmi vous qui pensent que d'un côté il y aurait l'intellect des philosophes et de l'Occident, et de l'autre il y aurait la méditation de l'Orient. Nous avons tous entendu cette parole de grands sages bouddhistes disant que le plus important à l'intérieur de la méditation, c'est de stopper la pensée, d'arrêter la pensée. Et si l'on devait faire pour certains la distinction entre la philosophie occidentale et la philosophie orientale, on dirait que la philosophie occidentale pense alors que la philosophie orientale ne pense pas. Je me souviens des paroles dans ses écrits du père Kovalevski, qui trouvait ridicule le fait de penser. Eh bien, je comprends qu'on puisse critiquer les pensées, mais je voudrais vous tenter de montrer que la véritable pensée n'est pas si opposé qu'on le pense à la méditation. Je pense que la méditation orientale et la méditation occidentale sont bien plus proches qu'on ne l'imagine. Alors, pour le faire comprendre, je voudrais revenir sur les pensées, sur la pensée et sur le travail de la pensée. Et aussi curieux que ça puisse paraître, je voudrais me permettre de vous parler de Descartes afin de vous expliquer pourquoi, selon moi, il est un grand maître de méditation à travers ses méditations métaphysiques. Je sais que Descartes est souvent pensé comme le prototype du penseur intellectuel rationaliste occidental à qui on devrait les catastrophes de la modernité et de la science. Bien, je voudrais vous montrer que c'est exactement l'inverse et que quelque part il y a de profondes relations entre Descartes et la pensée orientale, aussi curieux que ça puisse paraître. Premièrement, revenons bien sûr sur les pensées au sens négatif du terme. Et je crois que le langage parle bien quand il fait la distinction entre les pensées et la pensée. Je pense que les pensées sont des choses néfastes, mais la pensée est quelque chose d'indispensable. Qu'est-ce que c'est que les pensées en nous? Je dirais que les pensées, c'est le résultat de l'action du monde sur nous-mêmes et de la réaction de nous-mêmes sur le monde. Vivre, c'est être pris dans un jeu d'action et de réaction entre nous et notre environnement. C'est recevoir sans arrêt des impressions et c'est réagir à ces impressions en renvoyant d'autres impressions sous forme de réaction. Que nous le voulions ou non, nous sommes sans arrêt impressionnés et nous répondons à ces impressions par des expressions. Les choses s'impriment en nous et elles s'expriment. Et ceci à notre insu, d'une manière inconsciente. Ce jeu de réaction et d'action est tel qu'il forme en nous un brouhaha. Et je comprends très bien la nécessité méditative d'arrêter les pensées, de stopper le monde. Comme le disait le psychanalyste Jacques Lacan, ça pense en nous, ce « ça pense » renvoyant à un brouhaha, à un tumulte, au bruit, et au fait que, à cause de ce bruit, rien n'existe vraiment. Je n'existe pas, tu n'existes pas, cela n'existe pas, rien n'existe. En ce sens, l'Orient a raison de souligner qu'une grande partie de la vie humaine se passe dans l'irréalité. Nous croyons exister, mais notre tumulte intérieur est tellement fort que rien n'existe vraiment. Nous ne nous rendons pas compte que nous existons, que les autres existent, que le monde existe, que la vie existe. Nous sommes pris dans une tornade, une tourmente, une tempête de pensée. Si bien que le réel est irréel et l'irréel nous paraît réel. C'est vrai que ce bruit qu'il y a en nous est tellement fort et nous y sommes tellement habitués que nous assistons au comble de la vie humaine qui est en même temps le signe de sa souffrance. Ce qui nous fait du bien nous fait du mal, et ce qui nous fait du mal nous fait du bien. Rompre avec les pensées, le tumulte, la tempête, se retrouver seul avec soi-même dans le silence est ressenti par tous ceux qui ont eu l'habitude de vivre dans ce tumulte comme une violence insupportable. Aussi se précipite-t-il vers le tumulte, vers la tempête, pour fuir le silence, la solitude et le vide. Comme le disait Pascal, tout le drame de l'homme est de ne pas être capable de passer 24 heures dans la solitude, en tête à tête avec lui-même. En ce sens, la méditation qui nous invite à nous taire, à faire le vide, à rester immobile, à rentrer dans la solitude, à stopper le monde, est quelque chose de vital. Et nous savons tous les bienfaits que celle-ci peut apporter. Mais je crois qu'il est important de faire la distinction entre les pensées et d'autre part la pensée. Le bouddhisme, la méditation orientale, relève d'une grande pensée. Si l'on supprimait la pensée, il faudrait supprimer le bouddhisme lui-même. Et il convient ici de montrer que s'il y a des pensées sous la forme de projections qui sont néfastes, la pensée est quelque chose d'indispensable. Qu'est-ce que c'est que la pensée ? La pensée, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous faisons taire le bruit à l'intérieur de nous et autour de nous, afin de pouvoir devenir attentif à ce que nous sommes et à ce qu'il y a autour de nous. Et étant ainsi attentif à ce que nous sommes et à ce qu'il y a, tout d'un coup, être capable d'entendre quelque chose de l'existence et faire l'expérience de la présence. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la pensée ? L'expérience de la pensée, c'est la même chose que l'expérience de l'existence. L'expérience de l'existence, c'est l'expérience que je fais qu'en sortant du bruit, parce que tout simplement je me suis tu et je suis devenu attentif à ce qui existe, je me rends compte que j'existe, que tu existes, que cela existe. Je me rends compte que j'existe, que tu existes, que cela existe. Cela veut dire que tout d'un coup, ce qui n'était pas présent et réel se met à devenir présent et réel. Et là, je fais une expérience de la pensée. Il y a trois expériences de la pensée. La première est liée à l'amour, la deuxième est liée à l'art, et la troisième est liée à la mystique. Qu'est-ce que c'est que aimer ? Comment est-ce que je sais que j'aime ? À quel signe puis-je reconnaître qu'il y a de l'amour ? À un seul signe. Quelqu'un existe pour moi. Et j'existe pour cette personne, elle existe. Un enfant a le sentiment d'être aimé par ses parents quand il a le sentiment d'exister à leurs yeux. Une femme a le sentiment d'être aimée par un homme lorsqu'elle a le sentiment d'exister à ses yeux. Que peut-on dire de plus beau à quelqu'un, sinon je te remercie d'exister. Le simple fait que tu sois là et que tu existes comble mon existence. Je crois qu'il est important d'apercevoir que lorsque nous sommes dans l'amour, nous sommes dans l'existence. Et lorsque nous sommes dans l'existence, nous sommes dans la vraie pensée. J'ai le sentiment que quelqu'un pense à moi quand il se rend compte que j'existe. À l'inverse, j'ai le sentiment de quelqu'un ne m'aime, quand quelqu'un ne m'aime pas, je n'existe pas et il ne pense pas. Donc nous avons ici quelque chose d'extraordinaire dans l'expérience de l'amour, c'est la coïncidence entre la pensée et l'existence, et j'attire votre attention sur quelque chose que nous allons retrouver lorsque nous parlerons de Descartes. La véritable pensée va de pair avec la véritable existence. Il y a des pensées qui ne sont pas des pensées, c'est de la vie. Cela existe. Et là, nous sommes devant le miracle de l'existence, le miracle de la pensée. En général, il y a une opposition entre l'existence et la pensée, sauf dans le cas de l'amour, où tout d'un coup, le mur qui sépare la pensée de l'existence et l'existence de la pensée est rompu. Et là, à un certain moment, je fais attention. Et je distingue à l'intérieur de mes pensées. Il y a des pensées inutiles, mais il y a des pensées fondamentales. Il y a une manière de penser qui est essentielle, et qui n'est pas de l'ordre du bruit ou de l'abstraction ou de l'intellect survolté, mais donne véritablement de l'ordre, quelque chose de l'ordre de l'existence. Je crois que des parents qui aiment leurs enfants pensent à eux, et ils ont de vraies pensées pour leurs enfants. Je pense que dans l'engagement fondamental de deux êtres qui s'aiment, il y a une vraie pensée de l'un envers l'autre. Et on retrouve la même chose dans l'expérience artistique. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la création ? L'expérience de la création, c'est ce qui se passe lorsque l'artiste, à travers les choses, nous fait ressentir le miracle des choses. Comme le disait Bergson, dans la vie quotidienne, nous passons à côté du monde parce que notre attitude spontanée est une attitude entre guillemets de prédateur. Nous cherchons à retirer de l'existence le maximum de bénéfices, de profits, de plaisirs. Donc, nous utilisons le monde à notre profit, nous l'asservissons et nous ne le voyons pas. Quel est le miracle de l'art ? C'est de rendre la lumière à la lumière, de rendre les couleurs aux couleurs, la matière à la matière, et de nous faire apercevoir le miracle de l'existence à travers tel ou tel détail que nous n'avons pas l'habitude d'apercevoir. Et là, nous avons, comme dans l'amour, une expérience de la pensée. Tout d'un coup, par la magie de l'art, le réel se met à exister. Et en se mettant à exister, il se révèle. Et se révélant, il provoque en nous la naissance d'un état de conscience. Nous nous rendons compte, comme dans l'amour, grâce à l'art, que j'existe, tu existes, cela existe, tout existe, tout est extraordinairement vivant. Faisons l'expérience de l'existence, de la totalité du vivant. nous allons avoir plein de pensées et plein de sensations. Nous allons voir le monde fourmiller de sens et nous n'allons pas connaître ici le tumulte et le brouhaha, nous allons connaître le plaisir, l'émerveillement, l'enthousiasme, le désir de vivre. Nous allons nous rappeler que l'existence est passionnante et probablement que nous allons avoir la force et le courage et l'inspiration de transmettre cette passion et cet intérêt aux autres, cette attention à toute chose, cette bénédiction pour toute chose. Et ceci nous introduit dans une troisième expérience de pensée profonde qui est l'expérience mystique. L'expérience mystique, c'est ce qui commence dans l'amour, c'est ce qui se continue dans l'art, et c'est ce qui s'épanouit dans l'expérience mystique, qui est révélation de l'existence fondamentale. Qui dit mystique, dit mystère. Et qui dit mystère dit silence, et qui dit silence dit parole. Qu'est-ce que c'est qu'un mystique ? Un mystique, c'est celui qui voit se monter la parole de l'intérieur du silence. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la parole ? C'est l'expérience du dire fondamental, du sens de tous les sens, du possible, de tous les possibles. Que nous dit la mystique ? La mystique nous dit que la vie dit quelque chose. Et quand on est dans le dire, on ne dit pas ceci ou cela, on dit le dire lui-même. On est sorti de l'insignifiance. Et on est dans autre chose, qui est la plus grande révélation qu'un être humain puisse avoir dans sa vie, à savoir que l'existence a fondamentalement du sens. Et que ce sens est une valeur en soi que l'on appelle dignité. Que ce sens et cette dignité sont liés à la beauté et à la justesse. Et là, nous faisons une expérience étourdissante de la lumière et de l'esprit. Que veut dire l'expérience ? Que veut dire l'esprit ? Que veut dire la spiritualité ? L'esprit, c'est la découverte du fait lumineux de l'existence qui s'exprime à travers la matérialité du monde. Et là, nous sommes aux sources, à l'origine. Nous sommes à la découverte du, entre guillemets, le quelque chose. Y a-t-il quelque chose ou y a-t-il rien ? L'expérience mystique nous met devant le quelque chose et nous met en présence d'un savoir fondamental lorsque nous faisons une expérience mystique. Nos yeux s'ouvrent, nous savons, nous avons compris, nous avons rencontré, nous avons été rencontrés, nous avons une intuition fulgurante que nous ne sommes pas là pour rien, que rien n'est là pour rien. Et là, nous sommes habités par la raison d'être de l'existence. Et habités par cette raison d'être de l'existence, nous pouvons être capables de produire des paroles qui guérissent et qui fortifient. Et là, nous pensons. Là, il y a de la pensée. Nous nous en rendons compte lorsque nous avons une vraie conversation ou un vrai entretien, lorsque nous avons un vrai entretien, une vraie conversation, nous sommes élevés à la plus belle part de nous-mêmes. Et tout est élevé, et tout est mis en résonance avec quelque chose de fondamental qui nous fait comprendre la fulgurante beauté de notre existence. Et là, quelque chose s'est dit. Et là, nous nous sentons exister. Et là, on a le sentiment d'avoir été dans la parole et d'avoir entendu quelque chose qui n'est pas inutile. Et là, pour la première fois, on a entendu le véritable langage et on a entendu la véritable pensée. Toute la tradition chrétienne est fondée sur l'expérience mystique. L'expérience mystique a été pratiquée par les pères du désert, qui avaient comme projet la transfiguration du nous, qui désigne le terme grec, qui dit en grec le terme d'intelligence. Le but de la vie en Christ est la transfiguration de l'intellect. C'est très important, cette histoire de transfiguration de l'intellect. Parce que il y a là une méditation sur l'homme et sur le devenir de l'homme qui est totalement créatrice. Les philosophes, qu'est-ce qu'ils font? Les philosophes, ils pensent la pensée pour arriver à ce que Aristote appelait la pensée de la pensée. Et la pensée de la pensée, chez Aristote, ça désigne Dieu. Et chez Hegel, ça désigne Dieu. Pourquoi est-ce que les philosophes pense la pensée? On pourrait dire, au fond, les philosophes tournent en rond autour de leur nombril, ils devraient s'intéresser à la pensée, à la réalité, et non s'intéresser à la pensée. Eh bien non. Ils ne s'intéressent pas à la réalité, ils s'intéressent à la pensée, parce que la pensée est la clé de la réalité. Et les philosophes occidentaux et les philosophes orientaux font exactement la même chose, ils pensent la pensée. Il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre cela. C'est Bergson dont j'ai parlé. Bergson dit que le problème fondamental de la vie humaine, c'est le problème de la connaissance. Et le problème fondamental de la vie humaine, c'est le problème de la connaissance, parce que le problème fondamental de la vie humaine, c'est la mutation de l'intellect. Nous avons deux types d'intelligence en nous. Nous avons une intelligence primaire et nous avons une intelligence évoluée. L'intelligence primaire, j'en ai parlé, c'est l'intelligence prédatrice qui veut dominer le monde et qui l'asservit en ne s'intéressant qu'à ce qui peut lui procurer profit, bénéfice et plaisir. Nous apercevons que il y a par ailleurs en l'homme une intelligence intuitive et créatrice qui est l'intelligence de l'amour, l'intelligence de la création, l'intelligence mystique, l'intelligence de l'existence, c'est-à-dire la capacité d'aller derrière les apparences pour voir la lumière et l'esprit qui s'y trouvent et ainsi libérer les potentialités créatrices qu'il y a en moi, qu'il y a en toi, qu'il y a en nous, qu'il y a partout. Et là, nous comprenons le coup de génie de Bergson qui est de nous dire effectivement le véritable problème de l'humanité. Lorsque l'homme reste dans son intellect non évolué et primaire, il pollue le monde autour de lui et il bâtit un type de civilisation qui finit par être barbare. Une civilisation qui est uniquement fondée sur l'asservissement du monde, la domination par un individu avec son intellect qui cherche partout uniquement le profit et l'intérêt, nous le voyons, nous emmène à la ruine. À l'inverse, un monde où les êtres humains sont capables d'avoir une vraie intelligence, c'est un monde libéré de la pollution et où l'être humain rencontre la dignité de lui-même. Le problème de Bergson, c'est le même problème que le problème des pères du désert. C'est le même problème que Aristote et Hegel. C'est tout le problème de la métaphysique occidentale qui est à la recherche de la véritable connaissance. C'est le problème de la transfiguration de l'intelligence. Un jour, j'écoutais une conférence de Sogyal Rinpoche et il disait la chose suivante. Il y a trois choses à faire pour l'homme. La première, c'est de faire des choses utiles. La deuxième, c'est de ne pas faire de mal. Et la troisième, c'est de changer ses pensées. Les deux premières sont faciles à faire, mais la troisième est difficile à faire. J'en reviens au père du désert. Les pères du désert font exactement ça. Ils transfigurent leur nous, c'est-à-dire ils vont au-delà de l'intelligence prédatrice vers l'intelligence intuitive et illuminée qui permet, à un moment, de libérer les potentialités créatrices qu'il y a en nous et autour de nous. Et là, nous avons affaire à une véritable intelligence qui permet de construire une civilisation et une humanité qui ne vont pas à la barbarie. Donc le vrai problème, c'est d'arriver à la connaissance. Le vrai problème, c'est à libérer les forces d'amour, les forces de création, les forces mystiques qui sont à l'intérieur de l'humanité. Et le drame, c'est le refoulement des forces d'amour, des forces de création et des forces mystiques de l'humanité. Nous comprenons à un moment donc pourquoi une des paroles fondamentales de la philosophie occidentale, c'est cette parole de Parménide, penser et être, c'est le même. Parménide n'oppose pas la pensée et l'être. Il explique que la pensée et l'être, c'est la même chose. Que la véritable pensée et l'existence, c'est la même chose. Il ne dit pas être plutôt que penser. Pourquoi ? Parce qu'il pense la pensée non pas comme projection mentale. La pensée, ce n'est pas les pensées. La pensée, c'est la présence. C'est la présence qui devient présente et on en a tous une expérience. C'est l'expérience de la véritable vision. Qu'est-ce que c'est que voir ? Voir, c'est ce qui se passe quand on voit qu'on voit. C'est là où on voit vraiment. C'est-à-dire, pour voir, il ne suffit pas de voir. Il faut faire l'expérience du fait que l'on voit qu'on voit. Et là, on est dans quelque chose de vertigineux. Faites l'expérience avec moi de voir que vous voyez. Vous allez rencontrer à l'intérieur de vous quelqu'un qui n'est ni le monde ni vous et qui vous permet de voir. C'est-à-dire, vous n'allez pas être dans la vision, vous allez même pas être dans la vision de la vision, vous allez être dans la vision de la vision de la vision. C'est-à-dire, vous allez être dans ce qu'on appelle l'espace visionnaire. Et c'est ça que veut dire l'expérience de la véritable pensée. L'expérience créatrice. L'expérience de la rencontre entre l'intelligence humaine et la réalité. Qui fait que tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, ça a du sens, ça n'est pas inutile. Alors, c'est là que je voudrais brièvement vous parler de Descartes comme maître de méditation. Descartes, Pascal, représente ce moment inouï de l'histoire de la pensée occidentale où cette pensée va se mettre à méditer. Descartes, c'est quelqu'un qui médite. Il écrit les méditations métaphysiques. Malebranche est quelqu'un qui médite. Il écrit les méditations chrétiennes. Les pensées de Pascal qui vous ont été lues hier sont le fruit d'une méditation. Qu'est-ce que ça a pu vouloir dire pour Pascal, pour Descartes, pour Malebranche, que méditer ? Je crois que méditer, c'est ce qui se passe quand on se rend compte du fond des choses. Méditer, c'est ce qui se passe quand on se rend compte que le réel est spirituel. Méditer, c'est ce qui se passe quand on fait l'expérience de Dieu ou du quelque chose. C'est une expérience que Platon décrit très bien. Dans le mythe de la caverne que vous avez tous lu en terminale, qu'est-ce que nous explique Platon ? Platon nous explique que les hommes croient que l'existence, c'est la matière. Que la pensée, c'est abstrait, que la réalité se trouve dans le concret. Les hommes croient que la réalité, c'est ce monde. La réalité, c'est ce corps. La réalité, c'est cette existence individuelle dans laquelle nous sommes, avec nos désirs. La réalité, c'est s'accrocher à la vie. Et qu'est-ce que nous montre Platon ? Cette existence que nous croyons réelle, elle est totalement irréelle. La réalité ne se trouve pas dans la matière nue, dans le corps nu, dans l'individualité ou dans le monde. La réalité, elle est faite de matière et de pensée, de corps et d'âme. Elle est visible et invisible. Quand on fait l'expérience de l'invisible, de l'âme, de l'esprit, de l'autre face de la vie, quand on fait l'expérience de l'espace visionnaire, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, on se met à exister, à vivre autrement. Et on se met à exister pour la première fois. On se met à découvrir son propre corps. On se met à comprendre qu'on n'a rien compris. Et pour la première fois, on comprend quelque chose. Ça, nous sommes dans une expérience de la pensée. Nous sommes dans une expérience de la méditation. L'existence du fait spirituel qu'il y a derrière l'existence est quelque chose de tellement extraordinaire que nous n'en avons pas fini de le penser. Et de le faire résonner à l'intérieur de nous-mêmes. Toute la philosophie de Platon est une méditation sur la réalité et sur la découverte du caractère spirituel de la réalité et sur le fait de faire résonner cela en nous, tellement c'est important. Donc là, on est dans une pensée d'au-delà de la pensée, on est dans la pensée méditante. Mais je pense que Pascal a vécu la même chose et que Descartes a vécu la même chose et que l'Occident a essayé de méditer et essaye de méditer à l'image de Pascal ou de Descartes. Quelle est l'expérience de Pascal? L'expérience de Pascal, ce n'est pas l'expérience de Platon, c'est une autre expérience. Pascal regarde le monde qui est le sien. Et dans le monde qui est le sien, il se rend compte qu'il a affaire à une réalité vertigineuse. Pascal vit un moment où on découvre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et il a un sentiment de vertige à l'intérieur de l'infini. Il se sent petit devant l'immense, mais en se sentant petit devant l'immense, pour la première fois, il a le sentiment d'exister et d'arriver dans la véritable conscience de l'existence. Et là, Pascal fait, de ce point de vue, la même expérience de Platon. Platon est atterré de voir les êtres s'accrocher au monde et à leur corps en oubliant totalement la dimension spirituelle de la vie. Pascal est sidéré de voir les hommes passer leur vie dans le divertissement au lieu de faire l'expérience de la pensée qui est la chose la plus importante du monde. Et qu'est-ce que veut dire penser pour Pascal? Penser pour Pascal veut dire s'arrêter, regarder l'univers et oser être à un moment frappé de stupeur, cloué sur place et rencontrer à un moment l'émerveillement, c'est-à-dire au cœur de la nudité et du vide apparent de notre existence, une extraordinaire plénitude. Il est devant le fait inouï de la vie. On ne devrait pas exister. Nous ne sommes pas grand-chose à l'intérieur de l'univers et nous existons quand même. Et la rencontre entre le vide apparent de notre vie et l'inouï de notre existence, pour la première fois, nous donne une vision juste, une juste mesure des choses. Et là, à un moment, on a une pensée et on retrouve des pensées qui ne sont plus des impressions tumultueuses et tempétueuses, mais qui sont toute la richesse de l'existence qui apparaît. Lorsque on a vu ce qu'était la réalité, comme le dit Platon dans le Banquet, on est devant une fontaine qui ne cesse de faire s'écouler des eaux sous la forme d'idées, de sensations, de visions. Et il n'y a plus ni jour ni nuit. On n'est même plus capable de dormir et on n'a même plus besoin de manger parce qu'on danse, parce qu'on chante, parce qu'on est devant quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, il y avait un jour un prêtre orthodoxe qui était allé dans un monastère bouddhiste du nord du Népal, au sud de la Russie, pas loin de la frontière chinoise et russe. Et il disait, quelle est la différence entre le bouddhisme et le christianisme? Il a demandé au lama. Il a dit, écoutez, si tout le monde était bouddhiste, le monde pourrait dormir. Il ne ferait plus de cauchemars. Mais si tout le monde était chrétien, il n'y aurait plus besoin de dormir, parce qu'il n'y aurait plus ni jour ni nuit, le ciel serait sur la terre. Voilà ce qu'ont vu les mystiques, voilà ce qu'ont vu les vrais penseurs comme Pascal, comme Descartes, comme Platon, comme Aristote, comme Hegel, ils ont vu quelque chose d'inouï. Et ils ont vraiment, à partir de là, essayé de penser et apporter de la pensée. Alors simplement, rapidement, qu'est-ce que c'est que l'expérience de Descartes? L'expérience de Descartes, c'est le type même d'une expérience mystique réussie. Premier point, Descartes a fait l'expérience de la vision. Qu'est-ce que c'est que la vision chez lui? C'est l'évidence. Tout part de l'évidence. La vérité, c'est une évidence. C'est-à-dire que comment se présente la vérité à moi-même? La vérité se présente sous la forme d'une expérience lumineuse. Qu'est-ce que c'est que l'évidence? C'est quelque chose que je ne peux pas nier. C'est quelque chose qui s'impose à moi d'une manière lumineuse et qui fait que je sais. Je sais parce que je le vis de l'intérieur. Et comme je le vis de l'intérieur, je sais de quoi je parle. Descartes fait confiance à l'évidence et dit qu'à un moment, on est dans la vérité quand on est dans l'évidence. On est dans l'évidence quand c'est lumineux. Et en général, quand c'est lumineux pour nous, c'est lumineux pour les autres. Sachant que quand c'est obscur pour nous, c'est pas très clair pour les autres. Et donc, Descartes fait l'expérience de l'évidence et il dit, voilà, si les philosophes partaient de l'évidence et disaient des choses qu'ils comprennent, au lieu de tenir des discours qu'ils ne comprennent pas, la science irait beaucoup mieux et le monde également. Alors il dit, qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce qui est vrai dans ce monde? Et là, ça l'amène à douter. Comme il recherche l'évidence, il doute. Et là, il va faire deux rencontres métaphysiques. La première rencontre métaphysique, c'est la rencontre du cogito, de sa conscience. Et la deuxième rencontre qu'il fait, c'est la rencontre de Dieu. Descartes nous dit, a priori, rien n'est évident. Tout est obscur. Le monde est obscur, mon existence est obscure. Peut-être que toute existence est obscure et que nous vivons dans un rêve. Oui, mais il y a une chose que je ne peux pas nier, c'est l'existence de ma propre conscience. Je ne peux pas douter de tout, et c'est la signification du fameux « je pense, donc je suis ». « Je pense, donc je suis », pour certains philosophes, c'est le comble du rationalisme occidental. C'est le comble de l'idéalisme occidental. C'est quelqu'un qui voudrait tout ramener à sa conscience et à son intellect et qui pense que l'existence existe parce que je pense intellectuellement. Je crois que les gens qui voient Descartes ainsi ne l'ont pas lu. Descartes ne fait pas l'apologie de l'intellect. Il montre l'impossibilité de douter de tout, l'impossibilité de penser que le monde est un délire, l'impossibilité de penser que tout est illusion. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui est de l'ordre de la conscience. Pour douter, il faut qu'il y ait de la conscience. Descartes fait une expérience sur le plan intellectuel qui est au fondement de toute pensée, et le fondement de toute pensée est de dire que l'être précède le néant, et il ne peut pas, le néant ne précède pas l'être. La conscience précède le doute ne précède pas la conscience. Donc il y a une source lumineuse à l'intérieur de nous-mêmes qui est de l'ordre de l'indéracinable. Et vous voyez aussi, petite parenthèse, lorsque Descartes dit « je pense, donc je suis », il prononce le nom de Dieu, Yahvé, le tétragramme qui veut dire « je suis ». Et donc il y a une coïncidence mystique, fulgurante, extraordinaire qu'il fait. C'est-à-dire on ne touche pas à la pensée impunément. Et quand on rentre dans une véritable expérience de pensée, on découvre quelque chose qui est de l'ordre de l'inouï, qui est au-delà de l'intellect. C'est le fait inouï de la pensée, et derrière le fait inouï de la pensée, c'est le fait de l'existant. Et là, nous pouvons dire que Descartes est hors intellect parce que là, il ne peut plus discuter. Il ne peut plus intellectualiser. C'est autre chose, c'est ce qu'on appelle une intuition. Mais plus encore, c'est l'intuition de quoi? De quelque chose qui est incontournable et qui est de l'ordre du don et du fait fondamental. Première découverte de Descartes, je ne peux pas douter de tout. J'existe, et attention, c'est drôlement important dans la vie de se rendre compte qu'on existe. Combien de nos contemporains ont le sentiment de ne pas exister et de n'être rien? Et vous le savez comme moi, que de richesses dans la méditation orientale, nous enseignant à prendre conscience que nous existons simplement en remuant nos doigts de pied. Si nous étions capables d'avoir conscience de nos doigts de pied dans nos chaussures, nous ferions la même expérience de Descartes avec le cogito. Et le deuxième point important, Descartes se rend compte que non seulement il existe, mais il y a quelque chose qui le fait exister. Et ce qui le fait exister, c'est Dieu. Et il dit une chose magnifique. Qu'est-ce qui prouve chez Descartes l'existence de Dieu? C'est simplement l'idée de Dieu. On en a beaucoup voulu à Descartes d'avoir montré sa fameuse preuve ontologique. Et on lui dit, c'est le comble de l'intellect. L'idée de Dieu prouve l'existence de Dieu. Eh bien, moi, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que là, il y a de la pensée. Là, il y a de la méditation. Vous savez, il y a trois manières de découvrir Dieu qui ont été mal formulées à travers les preuves de l'existence de Dieu. La première, c'est la beauté du monde. La deuxième, c'est l'absence d'autosuffisance possible de la réalité. Et la troisième, c'est l'idée de Dieu. Qu'est-ce qui nous permet de rencontrer Dieu? Oui, la beauté du monde, la perfection qu'on peut trouver à l'intérieur de ce monde. Il y a visiblement quelque chose et pas rien. Deuxièmement, difficile de penser que la nature est autosuffisante, que la nature est quelque chose de naturel. Il y a dans la nature quelque chose qui dépasse la nature. Il y a dans l'homme quelque chose qui dépasse l'homme. Ça, c'est une autre intuition possible de Dieu. Et puis, il y a une troisième expérience possible de Dieu, c'est l'idée de Dieu. Est-ce que Descartes nous dit, est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que l'idée de Dieu? Qu'est-ce qu'enseigne l'idée de Dieu à Descartes? Une chose, c'est qu'on n'a pas pu tout inventer et que Dieu n'est pas quelque chose que l'homme a pu inventer. C'est impossible. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas quelque chose qu'il a pu inventer? Parce que Dieu, c'est la perfection et la perfection, ce n'est pas quelque chose que je peux inventer. Pourquoi? Parce que inventer la perfection, ça serait penser que je peux faire du parfait avec de l'imparfait et que je peux faire de la lumière avec de l'obscurité. Il y a quelque chose dans la lumière qui ne vient pas de ce monde. Il y a quelque chose dans la perfection qui vient d'ailleurs. Il y a quelque chose dans l'idée de Dieu qui vient d'ailleurs. Et c'est ça qui nous fait penser. Donc à un moment, la méditation l'amène à stopper l'intellect, avouer ses limites devant l'incontournable, et se retrouver devant quelque chose d'inouï, qui est de dire, la réalité, ce n'est pas le monde extérieur et mon corps, c'est ma conscience, au sens de ma lumière intérieure, et à l'intérieur de ma lumière, une capacité qui a d'aller encore plus loin. Une lumière de la lumière qui me permet de devenir lumineux, qui m'incite à devenir lumineux. Souvenez-vous des premières phrases, des paroles du symbole de Nicée, du credo, quand on parle de Dieu en disant « lumière de lumière ». Non seulement Descartes se rend compte qu'il y a de la lumière, mais il y a une lumière de la lumière. Et quand on a compris cela, on a découvert le véritable socle de la réalité et donc on peut aller traverser le monde et rentrer dans cette existence tempétueuse en ayant les moyens de comprendre ce qui se passe. Car qu'est-ce que donne l'expérience méditative qui nous permet de découvrir le véritable socle de la réalité? Je crois qu'elle nous donne la possibilité de devenir médecin des corps et des âmes, de devenir thérapeute, de comprendre le drame de l'humanité et de comprendre les réponses possibles à ce drame. Le drame de l'humanité, c'est l'ignorance. C'est le fait que les êtres... Et l'ignorance, c'est quoi? C'est le fait de se tromper de vie, de tout confondre. Et c'est le plus grand drame de l'humanité. Les êtres humains se trompent de vie et ils passent totalement à côté de l'existence. Si le péché et la chute ont un sens, ça n'est que celui-là. Le péché veut dire, en hébreu comme en grec, rater la cible, passer totalement à côté. C'est la même définition que la bêtise. La bêtise a l'art de rater la cible. Et ce qui est dramatique, c'est de mener des vies bêtes. Et non seulement c'est dramatique, parce que c'est très dangereux. Et qu'à un moment, on finit par faire d'énormes bêtises. Et on crée un monde chaotique, et on crée un monde de souffrance. Mais si on est capable de mettre en ordre nos pensées, de retrouver le fil et le lien, de comprendre où est la véritable réalité, que va-t-il se passer? Je ne m'accroche plus au monde, je ne m'accroche plus à mon corps. Je sors d'une relation prédatrice à l'existant. Je laisse respirer le monde. Je laisse vivre le souffle du monde et de l'humanité. Et à ce moment-là, je vois les êtres ressuscités, reprendre une relation avec leur véritable corps, avec leur véritable existence, et par là même, naître à eux-mêmes et au monde. D'où l'extraordinaire expérience de la méditation, de la pensée, c'est-à-dire de la rencontre juste entre l'homme et le monde. Lorsque l'homme et le monde se rencontrent, ils se rencontrent à la faveur d'une coïncidence entre le moi et le monde, et tout d'un coup, le moi n'est plus le moi, le monde n'est plus le monde, on est dans l'ouverture, on est dans la vie, on est né. Je vous souhaite de belles méditations et de belles rencontres avec le monde. Je ne sais pas si vous... Enfin, c'est peut-être pas prévu, mais nous allons peut-être transgresser, nous permettre quelques libertés. Si certains ont des questions, ou des... s'il y a 2-3 questions, et si Sandrine est d'accord, si Dominique est d'accord, la parole est à vous, si vous la souhaitez. Il faut parler près du micro. Oui, donc, voilà.
Merci beaucoup pour votre prestation. Je voudrais savoir comment vous prévoir l'évolution de ça dans la société cyborg dans laquelle on va entrer.
L'évolution de ça dans la société.
Avec les robots et les hommes bioniques et tout ça.
Ben, écoutez, je m'aperçois que le problème se pose à chaque époque. À chaque époque, nous avons le choix entre deux types de pensées, ou bien un type de pensée et de rapport au monde qui conforte ce que Platon appelait le tyran, qui est la même chose que l'esclave. Et le tyran, c'est l'individu tout seul qui veut tout dominer par son intellect et donc qui va créer un monde virtuel, un monde d'automates, un monde de robots. Et puis, vous avez toujours, à l'inverse, eh bien, le monde de la pensée créatrice, qui est en opposition avec cette pensée primaire, pour montrer d'autres voies de connaissance et de vie. Donc je pense, si vous voulez, que ce qui se vivait au temps du Bouddha, ce qui se vivait au temps du Christ, et ce que nous vivons, c'est la même chose sous d'autres formes. Il faut que l'humanité apprenne à sortir de son intellect primaire pour aller vers son intuition créatrice. Et à chaque fois, c'est très difficile pour l'homme de renoncer à cet intellect primaire. Donc, ce que je crois, je ne sais pas où nous allons, mais je sais qu'il faut y aller. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le monde, mais je sais une chose, c'est que vous et moi, nous avons les mêmes intérêts, c'est-à-dire nous sommes persuadés que la véritable intelligence de l'homme se trouve dans la mystique, dans la méditation, dans l'expérience des profondeurs. On va y aller. Est-ce qu'on va gagner ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est une question de vie ou de mort, et vous êtes des porteurs de vie, et j'essaye de l'être un petit peu.
Donc, vous distinguez l'intelligence primaire et l'intelligence évolutive.
Oui.
Alors, dans nos sociétés démocratiques, nous avons à voter, à faire confiance à des personnes qui ont le pouvoir pour important.
Oui.
Comment peut-on distinguer ceux qui ont une intelligence primaire et ceux qui ont une intelligence évolutive?
Écoutez, c'est très facile. Je vous parle d'expérience. L'intelligence primaire va toujours donner un certain sentiment de malaise. Et tout d'un coup, je me sens étouffé et je me sens mal. Donc comment je le sais? C'est mon corps qui le sait. Ce sont mes cellules. Je me dis, mais c'est épouvantable, ça fait 5 minutes que j'entends cette personne et je suis de plus en plus mal. Et comment on voit l'intelligence créatrice? C'est l'inverse, c'est de se dire, c'est incroyable. Dès les premiers mots, on a compris que le niveau s'élevait, qu'on avait affaire à quelqu'un de responsable, de profond, et qui était tout à fait au niveau. Je crois que dans le monde politique, il y a le même problème que partout ailleurs. Il y a des gens primaires qui sont des beaufs, des brutes, hein, ils font de la politique au bulldozer, et puis vous avez des gens admirables qui ont un véritable engagement politique responsable au niveau de la cité. Alors, faites confiance à vos cellules, elles savent très bien la distinction entre l'intelligence primaire et l'intelligence évoluée.
De l'intelligence. Je vous remercie beaucoup parce que j'avais jamais entendu de cette formule-là. Et ma question, c'est par rapport à la pensée, la vôtre, ou la pensée philosophique, quelle est la position de la transfiguration de la chair?
Alors, la transfiguration de la chair. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Alors, d'abord, la chair, c'est ce qui se passe quand on est dans un espace transfiguré. Merleau-Ponty a une très belle analyse de la chair. Il dit, il y a le corps et l'âme, mais la chair, c'est ce qui se passe quand je vis corps et âme. Donc, le véritable sens de la chair, ce n'est pas le charnel, hein, c'est au sens négatif du terme. La chair, c'est ce vers quoi nous allons quand nous sommes transfigurés. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous vivons corps et âme et nous avons découvert notre véritable corps. Alors moi je crois que au niveau de la pensée, une des choses les plus importantes qui soit, c'est de découvrir son corps, c'est-à-dire le corps est la clé de la pensée. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a en nous un corps qui est le corps que l'on a et le corps que l'on est. Et on rencontre son corps quand on peut faire se rencontrer le corps que l'on a et le corps que l'on est. C'est-à-dire, c'est la différence qu'il y a entre la corporéité et la corporalité. Là, donc, tout le but de la vie, c'est de rentrer dans son corps, de s'incarner, de prendre le verbe s'est fait chair, c'est-à-dire que à un moment, eh bien, nous voyons dans cette expérience, Dieu fait l'expérience du corps à travers le corps de l'homme, et ça donne, je crois, cette révélation en nous qui est la révélation du corps. Je pense que tout le christianisme est une fantastique théorie du corps, une révélation du corps, et que le but, c'est bien la résurrection, et la résurrection du corps, ce n'est pas la résurrection des âmes. Donc je crois que nous sommes là devant un espace de pensée qui est vertigineux. C'est-à-dire, quand je fais l'expérience de la pensée, qu'est-ce qui se passe ? Je m'aperçois que le monde, eh bien, a de la chair, que tout se met à exister. Et je rencontre mon véritable corps, et je rencontre le véritable corps du monde et de la réalité. Et donc là, j'ai fait une véritable expérience d'existence, qui est en même temps une véritable expérience de pensée. Et mes pensées ne sont pas coupées de mon corps, et mon corps n'est pas coupé de ma pensée. Mais le gros problème, et ça, les médecins le savent ici, c'est l'être coupé en deux, hein, qui fait qu'à un moment, il n'y a plus de communication entre le psychique et le somatique. Et c'est là où tout d'un coup le psychique se met à délirer et le somatique à souffrir. Donc voilà, vous posez ici bien évidemment une question passionnante.
On va peut-être prendre une dernière question que tu voulais faire. On va peut-être garder ce format pour la prochaine conférence.
Voilà. Pourquoi,
pourquoi cette présentation de Descartes, très erronée, nous est faite effectivement lorsqu'on fait nos études ? Et deuxièmement, pourquoi on a oublié Bergson ?
Alors, bah écoutez, c'est très simple. C'est assez, vous savez, quand on n'est pas très futé et encore un peu marqué par un intellect primaire, on a besoin de boucs émissaires. Alors, on s'est cherché actuellement. On a deux boucs émissaires dans notre monde. Le premier, c'est Platon. Le deuxième, c'est Descartes. Et puis, vous savez que le christianisme est aussi aujourd'hui un bouc émissaire. Donc, c'est la théorie de René Girard appliquée à la philosophie. Vous avez des gens qui cherchent des boucs émissaires. Et il dit, tous les malheurs du monde viennent de Descartes et du dualisme cartésien ou de Platon et de l'idéalisme platonicien. Et puis, on a des pensées de meurtre. Donc je crois que si vous voulez, malheureusement, les passions se saisissent de la pensée et on est dans un détournement. Et Bergson, effectivement, c'est à payer le prix de cet oubli. Alors que ce penseur est absolument génial et qu'il a vraiment, lui, pensé le problème de l'intellect et de la pensée. Donc si vous voulez, je crois qu'il nous faut avoir de la liberté intellectuelle et de la liberté d'esprit. Beaucoup de gens veulent des recettes, ils veulent des boucs émissaires, ils veulent quelque chose qui soit un prêt-à-penser. Et tout le travail de la liberté d'esprit, c'est être capable de dépasser les oppositions, les identités toutes faites et de respirer. Voilà. Donc je pense que c'est le sens de notre présence ici et c'est ce que nous allons faire. Je vous souhaite, bien sûr, à toutes et à tous, du souffle et de belles respirations. Merci.